Aujourd'hui, trois appels dans le transport adapté de la même personne. Je vous le dis, il va falloir faire une table ronde un jour sur l'éthique dans le transport adapté. En même temps, je comprends, là, bon, semble-t-il que dans les autobus, c'est commun, les gens veulent sauver du temps, mais c'est tellement plus petit, plus compact dans le transport adapté. Je sais pas. Trois appels aujourd'hui, entre Cadillac et Follum.
Fortin.
Luc Fortin en compagnie de Jean-Sébastien Laliberté de l'autre côté. Jean-Sébastien qui m'a médusé avec son petit commentaire. On s'en reparlera. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Superbe journée, du moins quand je suis entré. Premier lundi de mai. Et on sera là comme ça au moins pour les probablement 7 prochains lundis. On verra pour la suite. J'ai pas eu d'informations encore sur la saison d'été. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à Axelib? D'abord, petit regard du côté de Drummondville. On s'intéresse à leur plan d'action. Surtout, la ville se pète les bretelles avec l'accessibilité et les efforts qu'ils investissent de ce côté-là. Donc, on va regarder avec des organismes si oui ou non la bonne note est méritée. Une fille qui aime bien se prendre pour une autre. Oui, c'est comme ça que j'ai envie de présenter Annie-Kim Charret-Chabot. Elle qui... Talbot? Merci. Charret Talbot. Tu peux le dire au peuple, Jean-Sébastien, les gens sont habitués de te connaître, puis j'ai pas de problème. Oui, c'est ça. Annie Kim qui avait été exclue du programme de théâtre au cégep. Finalement, bon, avec l'interpellation dans les médias, ça s'est bien fait. Et on va parler sport. D'abord avec un livre, puis avec le défi sportif. Ben oui, pour ceux qui étaient là avec Hélène et François, je disais avoir tordu un bras, celui de Dominique Tremblay, pour que cette fois-ci, Dominique et moi puissions passer la première demi-heure ensemble. Dominique, qui est de la Fondation internationale de Boccia, qui a été pas mal occupé cette semaine du côté du défi sportif, puisqu'il y avait un Open à Montréal encore cette année.
Oui, il y avait une compétition internationale, plus de 100 athlètes de 22 pays. Même Luc, t'as fait ton petit tour.
Oui, je suis allé finalement voir pour mieux comprendre un sport dont je parle occasionnellement sans trop savoir de quoi je parle.
Et puis après ta sortie, comment t'as trouvé ça?
Écoute, j'ai aimé voir le défi sportif dans une autre atmosphère que celle des autobus jaunes, des cris, des cours dans les corridors et des haies d'honneur. Et souvent, on nous présente le défi de cette façon-là. Mais là, c'était plus réfléchi, plus étudié, et j'avoue, si je voyais un peu, je pense que j'aimerais ça. C'est pas le sport le plus, tu sais, qui nécessite qu'on passe à la douche après, là, mais j'aimerais ça, je vois ça.
C'est bon, on pourra peut-être essayer.
On verra bien. Tu me disais que ça se faisait en Grande-Bretagne, semble-t-il.
Oui, pour les personnes qui ont des déficiences visuelles.
Ouais. Dominique, t'es ici, entre autres, parce que toi, t'as pu lire le « Au-delà des limites, l'histoire des sports en fauteuil roulant », réalité que je n'ai pas eu l'occasion de faire, malheureusement. Est-ce que je vous blâme, Judith Lucier, ou c'est pas de votre faute?
Je suis vraiment, vraiment désolée que le livre soit pas accessible à toi, Luc. Je sais pas comment ça fonctionne. Je sais pas comment il aurait fallu qu'on s'y prenne pour, bien humblement, là, pour que tu aies accès à ce livre. C'est malheureux parce que ça manque un peu de cohérence pour en parler aux éditions Flammarion.
Soit aux éditions ou à Parasport Québec, je ne sais pas. Est-ce que c'était une commande de Parasport aux éditeurs ou ce sont les éditeurs qui...
Ben, c'était une commande vraisemblablement pour moi. En tout cas, c'est eux qui m'ont commandé de me pencher sur ce sujet-là, les sports adaptés. Ça s'appelle l'histoire des sports en fauteuil roulant, mais je survole aussi des sports adaptés qui n'ont rien à voir avec les fauteuils roulants dans ce livre. Évidemment, je fais un survol. Et j'ai eu l'occasion de le faire avec Donald Royer, qui est un spécialiste. Vraiment, il a été un entraîneur pendant plusieurs années de sport adapté. Il a été à la tête de Parasport également. Donc, c'était une véritable encyclopédie. Donc, je me sentais pas trop imposteur de me pencher sur ce sujet-là.
Ce que j'ai compris, c'est que déjà, il y avait un manuscrit d'une centaine de pages qui avait été pondu par Donald. Et on t'a demandé d'enrichir ce manuscrit-là?
Bien, j'ai pris le document de Donald. Bon, c'est sûr que là-dedans, il y avait des aspects qui l'intéressaient, lui, par exemple, des statistiques, des pointages, des querelles internes, qui étaient peut-être moins d'intérêt grand public, je dirais. Donc, j'ai fait mon travail de journaliste, puis je suis allée faire un tri là-dedans, puis ensuite, je suis allée faire d'autres recherches pour visiter des aspects qui peut-être avaient échappé à Donald, des aspects peut-être plus historiques et... Par exemple, je suis allée dans les centres de documentation de Lucie Bruno pour trouver des informations sur les origines de ces organisations-là. Parce que souvent, quand on travaille dans une organisation, on ne sait pas exactement... Bon, on a une grande idée, une idée précise de ce qui est contemporain à l'organisation, mais on n'a pas nécessairement d'idée de comment c'est parti. Puis, donc, je suis allée chercher ces informations-là. J'ai enrichi le document, puis on a fait un travail ensemble comme
ça. Tu ressors avec quoi, Judith?
Ben, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris, premièrement, que c'était à la base un enjeu de réadaptation. Donc, c'est les sports adaptés, c'est vraiment... au début, c'était vraiment pour... permettre aux vétérans de guerre de devenir actifs, puis de se rétablir. Quand on venait de découvrir la pénicilline, avant, ces gens-là étaient condamnés vraiment à mourir très jeunes. Alors que là, avec la Seconde Guerre mondiale, on savait que ces gens-là allaient pouvoir rester en vie, mais on voulait qu'ils soient actifs. Et donc, le docteur Gutmann, qui était à l'origine des Jeux paralympiques, a vraiment été un pionnier dans la réadaptation de cette façon-là. Puis après ça, ben, ça a été un combat pour justement que ça passe d'un mode de réadaptation à des sports qui sont pris en considération pour ce qu'ils sont, puis pour qu'ils soient respectés comme des vrais sports. Puis à ce niveau-là, ben, il y a des pionniers qui ont vraiment, comme André Vigée, par exemple, qui ont vraiment fait en sorte que ces sports-là soient pris au sérieux. Puis ce que j'ai découvert aussi, c'est Chantal Petitclerc. Moi, tu sais, on la connaît n'importe qui. C'est l'athlète paralympique peut-être la plus connue. Mais ce que je savais pas, c'est qu'elle avait un côté militant dans les années où elle a commencé. Elle a pris un journaliste comme Pierre Foglien dans un coin, puis elle y a parlé dans le casque pour lui dire « Hey, c'est pas des niaiseries ce qu'on fait, c'est des vrais sports. Moi, je m'entraîne 7 jours sur 7. Je suis super disciplinée. Va pas dire que c'est un malaise, les sports paralympiques. »
Mais en même temps, c'est normal que fallait que ça passe par là. Je veux dire, au début, Dominique, les performances n'étaient pas là. Ce qu'on voulait, c'était justement donner aux gens l'occasion de bouger. Puis à un moment donné, on s'est dit tant qu'à mettre du monde, on va faire des compétitions. Puis là, les standards ont augmenté. Donc, c'est un peu normal que les choses se soient déroulées ainsi.
Bien, c'est ça que j'ai dit d'en parler un peu. On a passé du sport pour la réhabilitation au sport pour le loisir et le sport pour la performance.
Exact.
Maintenant, on est dans le sport pour la performance, mais on parle de ça depuis que seulement 20 ans. Mmh. Moi aussi, j'ai rencontré Pierre Fioglia quand j'étais athlète et j'ai eu le même genre de discussion avec lui. Puis c'était flagrant que les sports paralympiques étaient pris un peu à la légère, puis on était là juste pour s'amuser, on n'était pas là pour performer. Mmh. Puis c'était intéressant.
Puis peut-être qu'à ce moment-là, la performance aussi n'était pas au même niveau qu'elle l'est aujourd'hui. Mm-hmm, là, aujourd'hui, le 100 mètres, c'est vraiment impressionnant. Puis c'est vraiment... On peut pas dire que c'est pas du sport. C'est juste après, ça utilise un autre outil, mais
Je pense que dans les années 80, début des années 90, les André Vigée, les Marc Casey, les Michel Futeau, les Chantal Petitclerc étaient plus l'exception que la norme. Maintenant, si on veut aller aux Jeux paralympiques, c'est un travail à temps plein. Là.
Absolument.
C'est rien d'autre.
Même s'il y a encore des catégories et des sports où, puis ça je le dis, c'est pas la première fois et ça sera pas la dernière. Je veux dire, quand ça fait 4 ans que tu fais du sport puis que whoop, tu gagnes une médaille aux Jeux paralympiques, c'est parce que justement, c'est un petit peu disparate là, en termes des forces en présence. Il y a des sports où on est très, très bien représenté, où les standards sont là. Il y en a d'autres où, avec le temps, ça va prendre du galon.
Oui, il y a beaucoup. Moi, ce que j'ai découvert, c'est que ça, c'était un enjeu ultra complexe. Là, il y a énormément de catégories pour permettre à des athlètes il y a de la tricherie. Mon Dieu, Luc, je sens de la mauvaise foi.
Non.
Parce qu'il y a de la tricherie. Il y a de la tricherie dans les sports olympiques aussi. Là. Je veux dire, il y a d'autres formes de tricherie dans les sports paralympiques.
Mais j'aime ça montrer qu'on s'intègre.
Je pense que
OK.
Quand on y voit le sérieux, c'est là que la tricherie va rire.
Oui, en même temps, ça donne. Est-ce que ça donne pas un peu de crédibilité aux sports paralympiques?
Oui, un peu, oui.
Et faites-vous-en pas, Judith, Dominique et moi, on va continuer d'animer des émissions sur le sport adapté. On aime ça, mais c'est juste qu'en même temps, j'entends des fois le discours de certains journalistes et je me dis que parfois, ils ont un peu raison, mais pas autant qu'ils le pensent.
Non, mais la question des catégories, moi, ce que j'ai découvert, c'était vraiment complexe, puis on peut pas balayer du revers de la main une discipline parce que c'est trop facile d'avoir une médaille olympique. Peut-être que cette discipline-là, dans cette catégorie-là, elle en est à cette étape-là, mais si on dit que c'est pas sérieux à cause de ça, puis qu'on discrédite la discipline à cause de ça, ça ne se professionnalisera jamais. Puis tu sais, je pense que dans les sports olympiques aussi, là, si tu veux devenir champion de bobsleigh, je pense pas qu'il faut que tu t'entraînes pendant 20 ans pour... Bon, peut-être que là, les gens de bobsleigh vont m'appeler tout en même temps pour dire que c'est pas vrai, mais je veux dire, il y a aussi des disciplines olympiques qui sont moins compétitives. Là.
C'est sûr. C'est
puis,
tout à fait.
Quand je parle de classification avec les gens, ce que j'aime démontrer, c'est que la classification sert un peu comme la balance en judo
en boxe.
Ou en boxe. Et puis, si on enlève une catégorie juste parce qu'on dit qu'il y en a trop, ben ça pénalise certains athlètes et ça réduit un peu la complexité de la chose, mais fait que c'est ça que c'est un peu complexe, puis il faut en parler, puis il faut étudier la chose.
Oui, puis j'aime ça, effectivement. Je trouve que la classification fait en sorte qu'on a de moins en moins de courses où ils sont quatre. Finalement, tu vois, il y en a plein dans une piscine, tout le monde concourt un pour un contre l'autre, et on fait des ajustements. Judith, est-ce que, bon, je me souviens plus si c'était sur les cantines, les hot dogs, les dépanneurs, les McDo, les dépanneurs, ok,
ouais.
Bon, tu as travaillé ces dépanneurs, tu as travaillé sur la reproduction, tu as travaillé sur... Est-ce que, à part les dépanneurs, qui étaient ça, c'est quand même... Quand tu as une affectation complètement champ gauche, comment tu te prépares?
Effectivement, j'ai écrit des livres sur des sujets vraiment disparates. Puis je pense que, tu sais, les gens savent pas, mais mon métier de journaliste, je l'exerce encore aujourd'hui, même si je suis chroniqueuse d'opinion. Mm-hmm. J'écris sur toutes sortes de sujets. C'est peut-être la partie moins visible de mon travail, mais c'est une passion que j'ai depuis toujours de fouiller des sujets avec lesquels je suis moins familière. Il y a presque 10 ans, j'ai écrit un livre sur les dépanneurs, puis ça m'a menée à écrire un livre sur les sports adaptés, parce que c'est en lisant ce livre-là que mon éditrice Hélène de Rome m'a approchée, puis elle m'a dit, ben tu sais, j'aurais un projet qui pourrait ressembler. C'est une histoire à caractère social, donc il y a de la recherche à faire. Donc, puis pour moi, c'était... Effectivement, c'est un travail similaire. Bon, c'est sûr que ça m'a plongé dans un univers avec lequel j'étais moins familière parce que les dépanneurs, on connaît tous.
Tu vas au dépanneur.
Oui, mais surtout dans ce temps-là, en plus, je fumais, je buvais. Là, c'est plus le cas, mais dans ce temps-là, je fréquentais beaucoup le dépanneur. Mais les sports adaptés, tu sais, pour moi, c'est de me demander d'exercer mon travail dans la plus pure forme, dans ce que j'aime le plus faire. Tu sais, je suis foncièrement curieuse, donc c'est comme ça que je m'y prends pour fouiller mes sujets.
Au-delà des limites. L'histoire des sports en fauteuil roulant, des auteurs, une autrice, un auteur, Judith et Donald, donc Judith Lucier, Donald Royer, et éventuellement, il va être en audio. D'ailleurs, je vais appeler cette semaine au SQLA pour leur demander de le mettre sur la liste, et si jamais Audible ne le fait pas, ben Vusez-Voix le fera, éventuellement.
Ça me ferait un plaisir de le lire moi-même.
Ben,
je ne sais pas si j'ai les compétences.
Moi, je dis rien, sinon merci. Judith, ça dépend. Tu fais ce que tu veux. Dominique était là pour toi. Si tu veux rester pour Dominique, si tu as des choses à faire, on va causer justement de l'évolution du sport adapté et surtout de la présentation d'événements importants et comment ceux-ci peut-être influencent d'abord la pratique du sport, mais aussi l'accessibilité autour de cet événement-là. Et Dominique, j'ai pensé à toi. J'avais envie de nous faire plaisir un peu, là.
Le blanc et noir, fidèle à nos couleurs. l'équipe et les ultras, c'est comme un contrat. On le répète comme un mantra. Soudé avec eux dans le moment, savourer cette poésie en mouvement. Fleur de lys dans le logo, caché unique en Amérique et dans la Ligue, le gros. Le soccer nous connecte avec toute la planète et ici le cop crie. Il faut que tout le monde bouge, sinon c'est le carton rouge. C'est beau comme un tifo, Azzurro, Bianco, Nero. Il faut que tout le monde bouge, sinon c'est le carton rouge.
Nous sommes les joueurs numéro 12, tu connais la cause qu'on épouse.
Allez,
c'était allez, allez, I-M-P-A-C-T. Hey, on n'a pas été gâtés samedi, monsieur Tremblay.
Non, on n'a pas été gâtés. Et au moins, toi, t'avais le soleil.
Oui, c'est vrai. J'avais le soleil. On revient sur ce 36e défi. En fait, j'ai été surpris, Dominique. Bon, oui. Puis si Judith était encore ici, bon, elle a dû sauver. Mais elle dirait que j'ai de la mauvaise foi, mais c'est pas le cas. C'est juste... Peut-être que je remarque davantage ces choses-là. Tu me disais que l'hôtel universel, qui abrite plusieurs athlètes en fauteuil roulant depuis plusieurs années au défi sportif, n'a pas augmenté son accessibilité depuis plusieurs années. Ça n'a comme pas aidé à changer les choses.
En fait, je peux pas te le garantir à 100%. Parce que j'ai pas compté le nombre de chambres accessibles qu'il y a à l'intérieur de l'auberge universelle.
Mais en juger de toute façon par un texte où Maxime
Gagnon
oui. Parlait la semaine dernière, il disait, bon, on enlève les portes dans les salles de bain, on lève les lits en mettant des blocs sous les lits, donc on y va là à bras là, pour rendre les chambres accessibles pendant le défi.
Le plus gros défi, c'est quand on reçoit 100 athlètes en fauteuil roulant motorisé, on peut avoir l'hôtel avec la plus grande volonté du monde, il va y avoir certaines modifications qui vont être nécessaires.
Ouais.
On ne peut pas agrandir des ascenseurs et il y a certaines chambres où il va falloir enlever la porte de la salle de bain parce que le fauteuil roulant ne passe pas, ou encore... mettre des cubes de bois en dessous des lits pour qu'on puisse mettre un lève-personne en dessous du lit pour que la personne puisse sortir de son lit. C'est commun à chacune des compétitions. Moi, je travaille pour la Fédération internationale de boccia et c'est commun en termes d'expérience dans chacun des pays dans lesquels on visite.
Mais est-ce que, finalement, les athlètes vont se promener avec leur cube puis leur tournevis pour défaire les portes de salle de bain bientôt? Est-ce que, par contre, il y a des événements parfois qui, avec le temps, peut-être ont mis du poids, ont mis des obligations et où ça a changé quelque chose?
Je pense que c'est pas quelque chose qu'on voit à court terme. Mais je vais donner l'exemple des championnats du monde de Liverpool, où il y avait quand même une bonne relation de boccia, les championnats du monde de boccia où j'étais l'été dernier. Il y avait une bonne relation avec l'hôtel. Donc, enlever les portes, enlever les meubles pardon, dans la chambre et faire les cubes de bois, bien ça a été au coût des propriétaires de l'hôtel et non à la responsabilité du comité organisateur de la compétition. Donc, ça, c'est un pas dans la bonne direction. Donc, il y avait une certaine ouverture d'esprit du côté des hôteliers de Liverpool, ce qu'on a on peut avoir de la difficulté un peu partout à travers le monde.
Donc, tu es en train de me dire que non seulement les hôtels ne sont pas accessibles et que je suis obligé d'aller à la toilette là-bas à l'air, mais qu'en plus, c'est ma fédération qui doit payer pour les travaux encourus pour rendre ces chambres non accessibles acceptables.
Pas nécessairement la fédération, mais le comité organisateur ou les commanditaires ou les choses comme ça. Ça peut arriver.
C'est sûr que l'hôtel, dans ce temps-là, n'a pas d'incitatif. Si c'est lui qui devait payer, à un moment donné, il se tannerait puis il dirait probablement « Mais on va les rendre accessibles, ces chambres-là, plutôt que de payer chaque année. » Mais là, il n'y a aucune incitation.
C'est que... Je veux pas être la personne qui défend les hôteliers, mais c'est un événement par année.
Ouais, ouais, ouais.
C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de chambres. Et le reste de l'année, est-ce que si on rendait accessible 20 chambres, 30 chambres, est-ce que ça les pénaliserait? Ça, je peux pas répondre, mais c'est le genre de discussion qu'on peut attendre.
Et donc, le fameux article que j'ai vu la semaine dernière où à Osaka, on demande à la comité paralympique britannique des sous parce que les athlètes britanniques vont aller pour un tournoi, c'est pas inédit.
Disons que je suis pas nécessairement surpris que ça fasse partie des négociations de départ.
Ouais.
Parce que, bon, on peut dire... Le comité paralympique de la Grande-Bretagne, on parle de quelque chose comme plus de 200 athlètes avec toutes les autres qui sont alentours de l'équipe. On parle de beaucoup de monde. Donc, c'est évident que pour une ville, pour un hôtel, pour un regroupement de touristes, ça peut être payant. Donc, ils ont réussi à trouver des commanditaires pour payer les coûts. Mais pour l'hôtel, c'est pas le propriétaire de l'hôtel qui a payé les coûts, non. Et c'est pas le comité paralympique britannique, de ce que j'ai lu dans l'article, qui a payé pour les coûts non plus. Mais ça fait partie des négociations, évidemment.
Mais on peut présumer, bon là, Tokyo s'en vient, il va y avoir la tenue des Jeux olympiques et paralympiques.
Oui.
Il va y avoir des changements architecturaux.
Ben,
bon, à Londres, il y a eu une différence?
Je pense que oui, mais... Il y a toujours eu une ouverture d'esprit en Grande-Bretagne par rapport aux personnes handicapées et ainsi de suite. Avec la naissance des Jeux paralympiques étant dans ce coin-là, c'est plus facile. À Tokyo, tout est beaucoup plus petit que en Occident. Donc, les chambres d'hôtel sont plus petites. Ouais. Donc, quand on a un fauteuil roulant, c'est rendu plus compliqué. Et les normes du bâtiment au Japon étaient pour... Chaque hôtel qui se construise avant, c'était une chambre d'hôtel accessible par hôtel. C'est pas un très grand
ici,
chiffre.
C'est 10%, je pense.
Quelque chose comme ça.
Ouais, ouais.
Et à partir du mois de septembre, toutes les nouvelles constructions au Japon, ceux qui se font rénover, ça sera 1% de toutes les chambres d'hôtels de plus de 50 chambres devront être accessibles.
Donc, à partir du mois de décembre?
De septembre.
De septembre, OK.
Donc, on part de loin.
Eh oui.
Et comme il va y avoir plus de 1500 athlètes en fauteuil roulant qui vont quand même rester dans le village paralympique, mais il y a de la famille, il y a d'autres individus qui ne sont pas qualifiés, qui veulent assister à des compétitions. Donc, ça risque d'être un challenge pour plusieurs et que fasse preuve de beaucoup d'imagination pour être capable de trouver une place où se loger.
J'essaie de penser, j'ai réfléchi, j'allais dire à voix haute, mais je disais rien. Fait que j'ai réfléchi à voix basse, mais c'est parce qu'il me semble qu'un événement comme, bon, je pense au défi, là, devrait être un catalyseur, pas juste dans la pratique du sport et la sensibilisation auprès des jeunes et des professeurs, mais que l'architecture suive. Puis là, ce que tu me dis, c'est que c'est un problème planétaire.
En fait, l'architecture d'organismes privés est plus difficile à changer.
Ouais.
Quand on parle de transport, d'infrastructures comme les stades, les centres communautaires, ça, il y a beaucoup plus d'accessibilité après les Jeux qu'avant.
Ouais.
Et par exemple, quand moi j'ai participé aux Jeux paralympiques de Sydney, j'y étais qui était en 2000, j'y étais en septembre 1999, la plupart des stations de train n'étaient pas accessibles. Il fallait passer par les monts de charge et le matériel et les poubelles pour se rendre sur les plateformes.
Ouais.
Après les Jeux, 90% des plateformes étaient accessibles. Donc, il y a toujours un pas en avant. C'est juste que le secteur privé est toujours un pas en arrière du public.
Mais c'est intéressant. J'avoue, je suis content d'avoir eu cette discussion-là. Bon, le résultat m'accable un peu, mais en même temps, je comprends mieux que les comités organisateurs d'événements ont parfois les mains liées. Là.
Oui.
Comme tu le disais, quand c'est un événement par année... est-ce que tu vas te refuser à la tenue d'un événement simplement parce que tu n'as pas ce que tu souhaites avoir? Des fois, il faut faire avec,
c'est ça, ouais,
avec ce qu'on a.
Ouais.
Merci bien, M. Tremblay.
Ça fait
on
plaisir,
on se reparle début juin.
Avec plaisir.
Puis nous, ben, on va aller faire un petit tour du côté de Drummondville, entre autres. Mais il y a Diane et... Christiane qui va venir faire son tour également, juste avant.
Écoutez Accès libre.
Avec Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, Christiane Campagna comme édimestre, Luc Fortin comme animateur et Christiane Campagna comme vadrouilleuse des journaux, comme lectrice, comme partageuse, comme...
Oui, on peut dire ça. Là, on s'en va du côté des États-Unis. En fait, bon, mes deux nouvelles sont américaines. Tout d'abord, je vais vous parler d'un candidat à l'investiture démocrate qui s'appelle Pete Buttigieg. Mais je suis curieuse, de toute façon, je ne sais pas si Luc, tu as vu passer son nom, parce que je suis curieuse de savoir comment les lecteurs d'écran le disent, parce que ça s'écrit B-U-T-T-G-I-E-G.
Mais écoute, quand tu m'as parlé de lui, j'ai cru comprendre, OK, c'est de lui dont il est question, mais j'arrive pas non plus, moi, à comprendre ce que le lecteur d'écran me dit.
Oui, c'est ça, parce que ça s'écrit, ça se dit pas tout à fait comme ça s'écrit. La plupart des gens l'appellent le maire Pete, pour faire plus simple. Mais peut-être que dire son nom sera plus simple pour ses supporters sourds, parce que l'un d'entre eux a créé un signe en American Sign Language pour le nommer.
Okay.
Alors, le 15 avril dernier, Anderson Pleasance a partagé une vidéo où il a présenté le nom qu'il a trouvé pour le candidat. Un nom de signe, c'est un signe utilisé pour identifier une personne dans la communauté des sourds et ça peut être donné seulement par une personne sourde. Alors, il a trouvé un nom pour Pete Buttigieg. Il a expliqué qu'étant donné son logo qui ressemble à un pont et qu'il trouve que c'est quelqu'un qui construit des ponts, il a trouvé un signe où il se trouve à faire, là, pour le décrire, à faire la lettre P sur sa poitrine et à faire comme une sorte de pont jusqu'à l'autre côté de sa poitrine pour faire la lettre B.
Mmh.
Et c'est le signe qui le représente. Et quelques jours plus tard, le candidat démocrate, polyglotte, l'a remercié via vidéo en langue des signes américaine.
Oh.
Alors, ça fait beaucoup plaisir à M. Pleasance qui dit « Je me souviens d'avoir eu rapidement les yeux remplis de larmes en quelques secondes. J'étais vraiment émue. J'ai jamais vu un candidat à la présidence prendre l'initiative de me rencontrer un sourd comme un égal au lieu que cette fracture de la communication soit le seul fardeau de la personne sourde.
Mm-hmm. » On peut comprendre.
Il dit qu'il a été touché dans son identité. En fait, il considère qu'on a qu'on a respecté son identité culturelle sourde et qu'il a proposé au maire Pete de lui apprendre la langue des signes américaine. Il faut dire que Pete Buttigieg est connu comme étant vraiment polyglotte. Il connaîtrait 5-7 langues, incluant l'arabe, le norvégien, l'espagnol et l'italien.
Le norvégien?
Et sais-tu comment il a appris le norvégien?
Non.
Il a lu un livre, un roman en anglais d'un auteur norvégien. Il a adoré ça et les autres livres n'étaient pas traduits.
OK.
Alors, il a dit, ben, je veux continuer à lire cet auteur-là, je vais apprendre le norvégien. Et il a, lors de l'incendie de Notre-Dame...
Il a vraiment trouvé ça bon.
Ouais, lors de l'incendie de Notre-Dame, il a aussi fait une petite vidéo en français pour encourager les Français.
Bravo, Monsieur Pete.
Oui, voilà.
Ouais.
Et sur le site américain Vox, il y a souvent des textes d'opinion de personnes en situation de handicap. Et celui-là, c'est une personne qui s'appelle S.E. Smith. Elle dit que... il semble que régulièrement, les médias s'entichent d'une nouvelle technologie flashy destinée à résoudre un prétendu problème lié au handicap. Alors, typiquement, la technologie est présentée comme une source inspirante, nous montrant comment la tragédie présumée du handicap peut être améliorée avec quelque chose d'inventé par une personne qui n'est pas handicapée.
Mmh.
Et elle dit, là, c'est plein de personnes non handicapées qui font circuler la nouvelle avec enthousiasme. C'est une grande victoire de l'accessibilité. Et pendant ce temps-là, les personnes handicapées roulent des yeux, dit-elle. Surtout que ce sont souvent des exercices de relations publiques conçus pour stimuler l'intérêt du grand public à travers une entreprise, une start-up, souvent, et que plusieurs de ces gadgets n'arrivent même pas à l'étape de la production, bien souvent. Et que le problème de l'accessibilité, ce n'est pas que les outils n'existent pas. C'est qu'il faut les mettre à la disposition des gens, ces outils-là. On n'a pas besoin d'un fauteuil roulant qui monte des escaliers, on a besoin d'ascenseurs et de rampes. On n'a pas besoin de plus de gadgets, on a besoin de plus d'accessibilité, résumerait ce texte d'opinion.
D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi moi, je n'aime pas nécessairement parler de découverte médicale ou de prototype, parce que souvent, ça peut créer de faux espoirs et ça donne l'illusion également que tout est réglé. Alors que...
Oui, et ça perpétue cette idée de médicalisation du handicap, que c'est nécessairement quelque chose à guérir plutôt que de favoriser l'accessibilité.
C'était ce texte-là, justement, là où, il me semble que c'était ça le titre, c'était moins de bebelles puis plus de rampes ou quelque chose comme
oui,
ça.
Oui, c'est
ça. Plus de...
ouais, exactement.
Tout à fait. Christiane, d'ailleurs, qui épluche les journaux jour après jour pour les différentes émissions auxquelles elle est affectée ici à Canalim. Et régulièrement, elle nous envoie des textes. Et je remarque quand même une certaine recrudescence, particulièrement au Québec. Je trouve, j'ai l'impression que le sujet du handicap est de plus en plus abordé. En tout cas, il faut dire que tu ne le faisais pas avant, là, mais il me semble qu'on en entend plus parler quand même.
Ben, comme par exemple cet hiver, la question de la neige
a été
présente.
Le sport.
Chaque semaine,
il y a des textes
Le
sportifs.
Journal de Montréal a bien couvert le défi.
Ouais.
RDS relaie régulièrement les nouvelles de Sport.com. Ça s'en vient.
Et Radio-Canada a quand même fait un effort au chapitre du championnat du monde de hockey luge que le Canada a perdu en finale en prolongation. Merci beaucoup, Christiane Campagnat.
Ça fait plaisir.
Daniel Mayotte, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes directeur de l'Association des personnes handicapées de Drummondville, l'APHD, et on voulait causer avec vous parce que, bon, on remarque dans certains communiqués que Drummondville se dit municipalité de plus en plus accessible, qu'on prend ça au sérieux, que vraiment on fait des efforts, puis qu'on est bon. Est-ce que l'organisme que vous, pour lequel vous êtes directeur général a la même opinion de Drummondville?
Oui, en plus qu'on fait partie du comité de suivi de la politique d'accessibilité universelle, moi-même. Ça a débuté je voulais avoir une brève historique.
Mm-hmm.
Ça a débuté des années 87, puisque l'association a été créée. C'est des citoyens de la ville de Drummondville qui n'ont pas accès à l'hôtel de ville, fait qu'ils ont fait des revendications. Puis à partir de 87, là, ils ont formé l'association des personnes handicapées. Et une fois par année ou deux, ils s'assoyaient avec la ville pour discuter des différents enjeux sur le territoire de Drummondville pour que les personnes handicapées aient une certaine autonomie d'accessibilité au commerce, aux lieux publics, etc.
Oui, oui.
En 89, on a présenté une politique d'accessibilité universelle. Moi, je n'étais pas là, je suis arrivé en 99, là. Mais en 89, ils avaient été présentés à la ville de Drummondville, puis finalement, ça a comme tombé à l'eau.
Oui.
Fait que Moi, j'ai relevé ça en 2003. Il y avait un groupe de jeunes universitaires qui ont fait partie du conseil d'administration, trois jeunes personnes handicapées déterminées à faire avancer la cause des personnes handicapées à Drummondville. On a élaboré une politique d'accessibilité universelle et on l'a présentée à la ville de Drummondville qui, par ça, ont adopté la politique. On fait des ajustements, là. On a fait aussi une assemblée publique pour que tout le monde, qu'on n'oublie rien, pas d'handicap, pas oublier des handicaps, les enjeux. Et puis à partir de là, en mars 2008,
ça a pris quand même 5 ans. Il aura eu 5 ans entre 2003 et 2008.
Oui. Ça a été assez long, mais on est venu à bout. C'est ça, c'est le temps de la montée aussi, faire les recherches et tout ça. Ça a quand même pris un temps. Puis on était à l'association, on était quand même une personne à plein temps. Ça fait que le conseil d'administration, les bénévoles, il y avait d'autres choses à faire aussi, ils sont assez dans les études. Ça fait qu'ils ont quand même poussé à la barque, puis on a réussi à voir ce qu'on voulait. À partir de là, bien avant ça, là, à partir de, je pense, 2000, la ville de Drummondville nous a envoyé les permis de rénovation des constructions dans la ville de Drummondville. Nous, à partir de ces permis-là, on allait visiter les commerces et les endroits publics afin d'évaluer le degré d'accessibilité des commerces.
Mais est-ce que Drummondville offrait des incitatifs financiers à ces commerces-là au départ?
Non.
Non, OK.
Non.
Et aujourd'hui, est-ce que ce soit une exemption de taxes, un retour d'impôt ou même peut-être une subvention pour rendre le bâtiment accessible, est-ce que ça c'est...
Mais la ville, qu'est-ce qu'elle fait de ce côté-là? Elle peut des exemptions de taxes par rapport à s'il y a des bâtiments adaptés aux personnes handicapées, ils peuvent en bénéficier pendant un certain temps. Là, je parle comme les îlots résidentiels. Là, c'est un 12 logements pour des personnes lourdement handicapées avec des soins de services.
Mais pas les commerces ou...
Non, les commerces, non. Pas réellement à ma connaissance.
Okay. Est-ce que vous avez des problèmes, justement, ou peut-être sur les rues commerciales principales, on remarque des marches, des salles de bain exiguës?
Oui, mais ça, c'est plus dans la vieille partie, le centre-ville, parce que les bâtiments ils ont été faits quasiment collés sur le trottoir. Fait que quand ils ont 2-3 marches, c'est difficile de faire une rampe d'accès pour aller au commerce. Mais les niveaux de développement, là, ils ont des normes respectables à cette heure, fait que c'est facilement adaptable ou adapté.
En conversation avec Daniel Mayotte, qui est directeur de l'Association des personnes handicapées de Drummondville, on essaie de voir un peu ce qui se passe de ce côté-là. Lorsque la ville présente des plans d'action, on est obligé de le faire. Oui. Est-ce que généralement, on les exécute ou d'une fois à l'autre, on remet les mêmes affaires dont on a parlé l'année d'avant parce qu'il n'y a pas de coercition, il n'y a pas de punition si on ne fait pas ce qu'on dit dans cette loi-là?
Exactement. Mais on est proactif là-dedans par rapport qu'on fait des plans d'action sur 3 ans. Il y a une affaire qui traînait depuis une escousse, puis là, on est en voie de la réaliser, là. C'est sensibiliser l'urbaniste puis les architectes. On sait bien qu'eux autres, ils ont des normes à respecter, puis quand ils font les plans, à partir du plan, puis quand c'est rendu fini, des fois, il y a quelque chose qui se passe entre les deux, là. Tu comprends-tu?
Oui, oui.
C'est l'urbaniste, c'est son travail à faire, l'architecte aussi, puis le constructeur aussi. Fait que quand il arrive au bout, des fois, mais tu sais, j'ai déjà vu rentrer dans une salle de toilette, mais elle était super adaptée, mais il n'y avait pas de bord.
OK.
Il n'y a pas de bord d'appui. J'ai déjà vu une place qui avait un restaurant. En bas, il y avait une super grande toilette adaptée, mais pour aller manger, il faut aller au deuxième, puis il n'y a pas d'élévateur.
Ouais.
Ça, c'est des choses de même que je trouve stupide, là.
Tout à fait. Il y a quelqu'un qui ne réfléchit pas. En fait, il fait juste ce qu'il est obligé de faire. Puis le but, c'est pas d'aider la clientèle, c'est de répondre aux normes.
Oui. Puis répondre aux besoins aussi, puis les sensibiliser ces personnes-là aussi.
Ouais.
Fait que ça, c'est. Ça n'a pas été un oubli, c'est un manque de temps, parce que parce que chacun, on a nos tâches, puis ça, c'était notre tâche à l'association d'aller faire une présentation. Mais là, on est en voie de le faire pour cette année.
Mais M. Mayotte, je pense que vous serez d'accord avec moi que s'il y avait des amendes, le propriétaire du resto, il aurait fait attention avant de ne pas mettre de son ascenseur? Il aurait mis son ascenseur s'il avait eu peur d'une amende.
Oui, sûrement. Mais je préfère remarquer que les stationnements réservés pour personnes handicapées, c'est des bonnes amendes aussi. Puis on a fait une étude là, à peu près 7 ans. Là. On était sur le terrain, puis il y avait le tiers des personnes qui ne respectaient pas les cases. Là. Soit qu'il y avait une vignette qui était dépassée d'âge, ou la vignette de sa fille, mais sa fille n'était pas en présence d'un véhicule, ou falsifiée.
Mais c'est parce que souvent, les gens ne se font pas prendre. Alors, finalement, parce que quand tu te fais prendre une fois, j'ai l'impression qu'après, tu vois ton affaire.
Oui, mais la ville de Drummondville, le monsieur qui passe sur l'étiquette pour les stationnements de la ville, vérifie ça maintenant.
OK, il est efficace.
Maintenant, depuis 3 ans, là, régulièrement, il remarque ça, lui, c'est comme venu une habitude pour lui. Oui, il y en a, mais c'est pour ça, cette année... qu'on fait le même travail de 7 ans, l'association. On va être sur le terrain pendant la semaine québécoise. Il va y avoir une journée qu'on va être sur le terrain puis on va vérifier ça par des questions pièges, on peut dire, là, pour savoir réellement si la personne respecte les stationnements.
Qu'est-ce que vous diriez est le point fort de l'accessibilité à Drummondville? Bon, j'ai remarqué que, en tout cas, la ville semblait faire l'éloge de parcs. Semble-t-il que plusieurs parcs ou des lieux de loisirs qui étaient accessibles?
Ben oui, ils ont construit une super grande piscine adaptée avec... on appelle ça ça s'appelle, non? Multisport, là, mais c'est tout adapté, avec des vestiaires de piscine, des vestiaires universels, des loges persanes au plafond, tout équipé, là, avec des genres de fauteuils roulants qui vont dans l'eau.
Ouais, ouais.
Ils ont fait ça ce côté-là, puis d'impact, mais de plus en plus, ils font des tables accessibles là, pour les personnes en fauteuil roulant, des sentiers pour que les personnes puissent se promener en fauteuil. Il y a un gros projet aussi là, qui est en veille d'être développé, là, qui s'est commencé, les promenades des voitures. Ça va partir du pont, du nouveau pont. Mais si on peut dire nouveau, ça fait 30 ans qu'il est là. Non? Mais on l'appelle encore le nouveau pont.
Ouais, ouais.
Puis aller au parc des voitures, il va y avoir une promenade accessible pour tout le monde, donc, universelle.
Les prochains dossiers, vous dites que pour la semaine québécoise des personnes handicapées, là, vous allez faire un petit tour pour poser des questions au chapitre, entre autres, quoi, des stationnements.
Oui.
Mais sinon, quel dossier avez-vous?
Dans le transport, c'est... transport adapté, là, il s'en vient comme... Il commence à avoir des refus, là, c'est parce qu'il y a eu un changement de direction, ça s'est replacé, mais là, de plus en plus... Moi, je suis le comité d'admission au transport adapté, puis à toutes les 6 semaines, là, on a entre 14 et 15 personnes, nouvelles personnes qui sont acceptées.
OK.
Puis le ministère du transport, ils n'en mettent pas bien plus d'argent là-dedans.
Non, ça, c'est...
La ville en met beaucoup aussi. C'est un dossier qu'il va falloir retravailler. Il y a le taxi adapté qui, là, en part de ce qui arrive là, pour les permis, là, mais déjà là, avant, le taxi adapté à Drummondville, après 6 heures, oubliez ça dans la semaine, puis la fin de semaine, il n'y en a pas du tout. On a appelé la compagnie de taxi en tant que telle, et puis il nous a dit c'est le recrutement des personnes pour travailler sur le taxi adapté. Il y a mieux faire du transport.
Oui, c'est plus payant.
C'est plus payant, puis c'est plus rapide. Mais là, on est en train de regarder, justement, c'est ils reçoivent des subventions pour adapter le camionnette, là. Jusqu'où ils sont obligés de donner du transport adapté aux personnes handicapées, là. On cherche une loi, des preuves, qu'on les appelle, mais qu'on soit prêt, là, et puis à défendre le dossier. Tout.
Quand on entend des situations comme celles que vous décrivez, on se rend compte que, finalement, dans les grands centres, on est quand même assez chanceux, même si nous aussi, on a bien des petites affaires qui nous dérangent au chapitre du transport, mais au moins, il est efficace jusqu'à minuit et demi, 7 jours sur 7. Merci beaucoup, Daniel Mayotte.
Oui, ça m'a fait plaisir.
Au retour, on parle à Annie Kim Charret-Talbot, ou Talbot, on verra bien. Mais là, c'est Matoun Bonbon depuis 3 semaines. La musique de BTS, on va pratiquer notre coréen. Jean-Sébastien, est-ce que ma prédiction de début avril que ce sera la toune de l'été planétaire, est-ce que ça se peut ou ça se peut pas?
C'est pas impossible, mais à date, j'ai pas le même feeling que pour Despacito, que c'était envahissant, mais encore là...
Oui, mais c'est tellement meilleur que Despacito.
J'ai pas dit que c'était moins bon, j'ai pas dit que c'était plus bon, j'ai pas fait de commentaires sur la qualité, mais le côté vert d'oreille, le côté tout le monde va en parler, tout le monde va le fredonner, c'est bon, mais c'est... Despacito, c'était simple, fait que tu sais, même les enfants de 5-6 ans étaient capables de chanter, d'acheter leurs parents. Là, vu qu'on est dans le coréen, je sais pas... On va l'entendre encore beaucoup de fois, ça, c'est certain.
Anim Kim Charret-Talbot, yo!
Allô!
Ça va bien?
Ça va bien, oui!
Super. Annie Kim, on a entendu parler de vous par les journaux. Vous vouliez être en théâtre. Il y en a qui ne voulaient pas. Finalement, les journaux ont fait leur travail et vous avez pu entrer dans le programme de théâtre. Mais il a fallu, j'imagine, attendre quelques mois quand même.
En fait, Moi, ce que j'ai fait au départ, au mois de janvier, j'ai envoyé une lettre à la direction et ils ne m'ont pas répondu, en fait, pendant 3 mois.
Okay.
Donc, c'est comme ça que je suis passée dans les médias. Et finalement, j'ai réussi à être réintégrée dans le programme dans un autre cours en premier parce que le cours que je voulais suivre se donnait à l'hiver. Donc, j'ai été réintégrée à l'automne, au mois de septembre, puis j'ai fait mon fameux cours de théâtre québécois à l'hiver.
Une fois que vous êtes entrée dans la cohorte, ça s'est bien passé ou vous avez senti peut-être qu'on vous regardait un petit peu de travers?
Oui, ben, ça s'est quand même très bien passé. Mais je vais vous avouer que quand même, au niveau de l'intégration sociale, peut-être au niveau d'avoir des amis, ça a été plus difficile à ce niveau-là, dans ce cours-là. Mais sinon, ma professeure, Jean-André Bouchard, qui m'avait déjà eu dans ce programme-là, à une autre session, m'a traité comme un élève normal, m'a donné les mêmes commentaires que les autres et je devais faire les mêmes exercices que les autres à mon niveau de capacité, évidemment. Et j'ai réussi.
Finalement, qu'est-ce qui ne serait pas possible? Bon, évidemment, peut-être, je ne sais pas, là, vous êtes en fauteuil roulant?
Oui.
Bon, fait, au lieu de courir, vous pourriez être un athlète en fauteuil roulant, mais vous pouvez quand même jouer le rôle d'athlète. Bon, les cours de diction, OK, vous performerez peut-être pas comme les autres, mais le but, c'est de faire du mieux que l'on peut avec la diction, puis vous aurez la diction que vous avez, puis c'est pas plus grave que ça. C'était quoi leurs hésitations, selon vous?
En fait, eux, ce qu'ils m'ont dit à la base pour me refuser, c'est que je ne correspondais pas aux normes physiques pour arriver à faire le cours. Comme par exemple que ma voix portait pas assez et que je n'étais pas capable de faire une roulade. Ce à quoi j'avais répondu, ben moi, je roule 24 heures sur 24.
Mmh. Ouais, ouais. Oui, puis de toute façon, c'est parce que y a des gens comme vous, des gens comme moi, moi je suis une personne aveugle, je veux dire, ils sont dans la société et ils doivent être représentés sur les scènes.
Ah oui, oui, absolument. Moi, ce que je veux, comme là, j'ai réussi à passer dans les médias à cause de mon fauteuil roulant, mais ce que je souhaite ardemment, pour moi et pour toutes les personnes handicapées, c'est qu'on me reconnaisse, en fait, pour mes compétences de comédienne comme n'importe quel autre artiste ou n'importe quelle autre personne qui œuvre dans la société.
Est-ce que vous auriez envie d'être autrice? Est-ce que écrire, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser?
Oui, je pense que écrire, d'ailleurs, pour me trouver des castings, parce que pour le moment, il y en a pas beaucoup des castings pour les personnes en fauteuil roulant. Donc, surtout pour les femmes en fauteuil roulant, il y en a encore moins. Donc, je pense qu'à quelque part, j'espère que le public puis l'industrie aussi, on commence à avoir une ouverture des rôles en fauteuil roulant dans Clash, par exemple. Il y en a, on commence, mais j'espère qu'on va pouvoir m'ouvrir des rôles et sinon, ben je m'écrirai mes propres rôles et ça va me faire plaisir de collaborer avec l'industrie pour ça. Là.
Qu'est-ce que vous aimeriez jouer?
Entre autres, j'ai pensé à pourquoi pas quelqu'un qui se sert de son handicap, entre autres, tu sais, une méchante, là, qui fait, par exemple, une fraude ou...
Intéressant, ça. Donc, prendre finalement, briser un petit peu l'idée que, bon, tantôt, on parlait des personnes handicapées qui trichent en sport. C'est ça, briser cette idée que les personnes handicapées sont toujours vertueux.
Alors, oui, absolument.
Ouais.
Je vais vous dire, on n'aimera pas de nom, mais il y en a eu des gens qui, je trouve...
Et ouais, ben on pense à une Madame Thibault, entre autres. Annie Kim Charrette, Talbot, je suis obligé de vous laisser, mais bravo, lâchez pas, je suis content pour vous. Et de mon côté, je remercie Jean-Sébastien, Christiane. Bonne deuxième semaine de mai, puis on se retrouve lundi prochain.